C'est un petit peu ce qui va se passer au paradis, puisqu'il n'y aura pas que les évangéliques, ni seulement les... Voilà, il y aura tous les chrétiens qui attendent le Seigneur. Ben, nous serons tous ensemble, à louer ensemble. Juste avant, nous avons commencé, enfin avec Élisée, nous avons eu beaucoup de sujets de reconnaissance pour remercier le Seigneur. Aujourd'hui, ce matin, en tout cas, le message, j'aimerais commencer par... Oui, il faut aussi pleurer avec ceux qui pleurent. J'aimerais vous partager, pour commencer cette prédication, une triste nouvelle que j'ai apprise cette semaine. J'avais appris au début de la semaine qu'un homme que je connaissais, de mon ancienne église, était décédé suite à un cancer de côlon. Quand j'ai appris cette nouvelle, j'ai tout de suite pensé aux parents qui sont encore vivants, bien vivants, qui sont aussi des bons chrétiens. Ils viennent de perdre leur fils aîné. J'étais vraiment attristé pour eux. J'ai aussi pensé à sa fille, à sa seule fille. C'était fille à papa, avec qui j'ai fait aussi un camp d'évangélisation pendant plusieurs semaines. Avec qui aussi j'ai partagé pas mal de choses. Sa femme qui n'est pas chrétienne, mais maintenant, voilà, elle vient de perdre son mari. J'étais tellement triste pour eux. J'avais vraiment beaucoup de larmes aux yeux en priant pour cette famille. Il n'avait que 54 ans, à peu près. L'âge de mon frère, mon grand frère. Je me suis posé la question sur son salut. Car il ne venait pas très souvent à l'église. Cependant, je me suis rappelé de cette chose, cette discussion que j'ai pu avoir avec lui. Il me disait, écoute Jean, ne t'inquiète pas si tu ne me vois pas dans l'église assez régulièrement. Parce que, tu sais, je crois en Dieu, je prie à Dieu, j'ai une relation avec lui. Ma femme que tu connais, qui n'est pas chrétienne, aimerait que je sois un peu plus à la maison. C'est pour ça que je privilégie la situation familiale et je viens de temps en temps à l'église quand même. Mais j'ai la foi en Dieu. C'est ce qu'il m'avait laissé comme parole. J'espère que durant sa maladie, qu'il a eu un temps assez suffisant pour s'approcher encore plus avec le Seigneur, pour qu'il soit maintenant en paix, pour qu'il soit dans la délivrance totale auprès du Seigneur. En méditant sur sa mort, j'ai pensé à nous tous. Si nous mourons aujourd'hui, parce que voilà, on peut mourir à tout instant par un accident de voiture, ou peut-être que le Seigneur Jésus peut revenir, même cette semaine, aujourd'hui, ce soir. Est-ce que nous serons prêts pour l'accueillir? Pour le rencontrer. Vous savez, comme Jésus est venu il y a plus de 2000 ans, il est né d'une Vierge Marie, voilà, déjà, ça a commencé par un miracle. Et puis, à la fin de sa vie, il est mort, ressuscité. Après avoir passé 40 jours avec ses disciples, il est monté au ciel. Si vous avez la foi de toutes ces choses-là, est-ce que vous avez aussi la foi que ce Jésus, ce même Jésus, reviendra dans les airs bientôt. À ce moment-là, le Seigneur nous a bien dit que les morts ressusciteront premièrement. Voilà, nous verrons les morts ressuscités. Et puis, nous les vivants, lorsque le Seigneur revient, tous ensemble, avec tous ces morts ressuscités, nous serons enlevés avec eux sur des nuées, sur les nuées, à la rencontre du Seigneur. Est-ce que vous croyez à cette vérité? Sachons que ce miracle va se produire. Ce n'est pas une fable, ni un conte, une histoire inventée, mais c'est la vérité. Et c'est ce que nous devons préparer à cet événement. Et sur ce, j'aimerais vous inviter à lire dans Matthieu 25. Je ne vais pas tout lire, je vais juste raconter. Il y a plusieurs paraboles dans ce chapitre. Dans chapitre 24, il raconte comment il va venir dans les airs, comment il va venir pour nous rencontrer. Mais dans le chapitre 25, il précise un peu plus comment ça va se faire à travers les paraboles. Tout d'abord, il parle de l'histoire des 10 vierges. Effectivement, les 10 vierges attendaient l'époux, mais ils tardaient à venir. Alors, elles étaient toutes fatiguées, donc se sont assoupies, endormies même. Et puis, lorsque l'époux vient, elles se réveillent, préparent leurs lampes, mais 5 d'entre elles n'avaient pas préparé assez d'huile pour pouvoir le suivre. Et les 5 autres sages avaient préparé assez d'huile pour allumer leur lampe et suivre l'époux. L'autre parabole, c'est l'histoire des talents. Un maître va partir et en partant, il laisse à ses serviteurs 5 talents, 2 talents, 1 talent selon leur capacité à chaque serviteur. Et longtemps après, il revient et il demande compte à tous ses serviteurs. Et ceux qui avaient reçu 5 de talents, ils étaient des bons serviteurs fidèles, alors que celui qui avait reçu 1 talent, lui, il n'avait rien fait et était considéré comme un mauvais serviteur. Troisième parabole, Jésus parle comment ça va se faire quand Jésus reviendra. Et il dit qu'il séparerait entre les brebis et les boucs. Alors, qui sont les brebis? Les brebis sont ceux qui ont agit selon leur foi. Leurs actes et leur foi étaient la même chose. Alors que les boucs, soi-disant avoir la foi, eux, même s'ils avaient la connaissance de Dieu, ils ne mettaient pas en pratique ce qu'ils croyaient. Ceux-là étaient appelés des boucs et ils étaient dans la perdition par la suite. Voilà donc les 3 paraboles dans Matthieu 25. Et dans ces 3 paraboles, il parle la même chose, c'est-à-dire, premièrement, il y aura toujours, à la fin de notre vie, ou même après, ou même pendant notre vie, lorsque le Seigneur revient, il y aura un jugement final. Il y aura un jugement final. Et ce jour-là, nous devrions rendre compte de tout ce que nous avons fait. Et ça c'est la première chose. Deuxième chose, en écoutant toutes ces 3 paraboles, deuxième chose, c'est que après ce jugement, il y aura 2 chemins, c'est-à-dire que soit nous serons sauvés, soit nous serons perdus. Quand nous voyons l'histoire des 5 vierges sages, ils étaient bien accueillis, récompensés même, parce qu'ils étaient prêtes, alors que les 5 autres vierges folles, ils étaient rejetées, perdues. De même, ceux qui avaient reçu les 5 talents, 2 talents, ils étaient récompensés, alors que celui qui avait reçu 1 talent, lui, il avait été réprimandé. Et puis, les brebis avaient été accueillis, alors que le bouc était condamné. Effectivement, c'est une question de lumière et de ténèbres. C'est une question de salut et de la perdition. C'est une question de vie ou de mort éternelle. Il y a 2 chemins. Il y a 2 chemins après ce jugement final. Et troisièmement, je dirais que après sa venue, il n'y a pas de deuxième chance. Il faut être prêt à ce moment-là. Il n'y a pas de purgatoire, comme disent certains. Certains disent que nous passerons par le purgatoire pour peut-être aller, après avoir purgé nos peines, nos torts, après avoir payé tout ce que nous avons commis, nous serons dans le paradis. Non, c'est pas du tout ce que dit la Bible. Donc ici, à travers les exemples, les paraboles que je viens de résumer dans Matthieu 25, je vous invite en tout cas à lire dans votre maison. Dieu nous invite à montrer nos fruits pendant que nous vivons sur cette terre, que nous ne soyons pas comme des zombies spirituels. Vous savez, les zombies sont des vivants. On a l'impression qu'ils sont des vivants, mais ils ne sont pas vraiment vivants. Du coup, il pourrait y avoir des chrétiens zombies spirituels. Soyons vraiment des gens bien, bel et bien vivants pour que, lorsque le Seigneur revient, que nous soyons prêts. Il y a trop de chrétiens qui vivent comme si Jésus ne reviendrait pas. On ignore cette vérité, même on ne l'attend plus, puisqu'on l'a déjà attendu depuis 2000 ans, et que comme il n'est pas venu, on ne pense plus à lui. Mais Jésus revient. Jésus revient. J'aimerais vous donner aussi un autre exemple. Étienne, le martyr Étienne, dans les Actes chapitre 7, en voyant les religieux Il leur demande de se repentir. Il leur dit, lequel des prophètes, vos pères, n'ont-ils pas persécuté? Voilà, vos ancêtres, tous les religieux d'avant, ils ont persécuté les vrais prophètes. Ils ont tué ceux qui ont annoncé d'avance la venue du juste, la venue du Messie. Et maintenant, bah, vous avez livré maintenant, et donc vous avez été les meurtriers. Vous avez reçu la loi, mais vous ne l'avez point gardée. Donc, après avoir reçu cette parole d'avertissement, si ces religieux étaient des bons croyants, ils auraient pu se repentir, demander pardon. Mais au lieu de demander pardon, après avoir entendu cette parole, qu'est-ce qu'ils ont fait? En entendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur. Alors qu'on dit la vérité, ils étaient furieux dans leur cœur et ils grinçaient des dents contre lui. Parfois, la vérité peut faire très très mal. Mais Étienne, lui, rempli de Saint-Esprit, fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit, voici, je vois les cieux ouverts, le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Devant cette vérité encore proclamée par Étienne, les religieux ne supportaient plus. Ils poussèrent alors des grands cris et se bouchèrent les oreilles pour ne pas écouter. Et ils se précipitèrent tous ensemble sur lui. Ce n'est pas parce qu'en se bouchant les oreilles qu'on n'entend pas la vérité. Ce n'est pas en poussant des cris pour ne pas écouter la vérité que la vérité ne changera pas. Non. Jésus revient quand même. Dieu triomphera quand même. Et ce jour-là, comment nous répondrons à Dieu? Est-ce que nous serons comme ces cinq vierges folles qui disent « Oui Seigneur, oui, nous t'avons tant attendu, mais attends, parce que là, je ne suis pas encore prêt. J'ai pas assez prêt de parler d'huile. » Ou comme ces cinq vierges sages qui avaient déjà préparé, qui avaient plein de réserves au cas où le Seigneur reviendrait. Cette semaine, Laetitia est revenue à la maison. Elle était longtemps partie chez ses parents, et puis elle était montée en Alsace, et ensuite elle a pu rencontrer des amis, et elle est revenue à la maison là, ce mercredi. Elle disait que voilà, avant de monter dans le train, elle avait rencontré quelques amis, enfin une amie, et puis elle a eu un souci avec le parking. Donc elle a failli rater le train qu'elle avait réservé. Et elle a couru, et elle a pu monter au dernier moment. Donc quand elle est montée dans le train, hop, tout de suite, la porte est fermée, elle a pu partir. Ouf! Mais si elle avait raté ce train, bien sûr, il y aurait eu toujours... elle aurait perdu le billet payé, mais il y aurait eu toujours un autre train pour l'emmener jusqu'ici. Mais malheureusement, au jour du Seigneur, au jour où le Seigneur Jésus revient, ce sera le seul train où nous pouvons monter pour aller au paradis. Après cela, il n'y aura aucune autre chance. Aucune autre chance. Il n'y aura aucun autre train. Je pense que vous avez compris le message. Soyons vraiment éveillés. Préparons-nous à la rencontre du Seigneur en ayant beaucoup d'huile en réserve. Je reviens encore à cette parabole sur les 10 vierges. L'époux, bien sûr, représente Jésus qui va revenir. Les 10 vierges sont des chrétiens. C'est pas forcément, non, c'est pas des athées, ce sont des chrétiens. C'est ceux qui connaissent que Jésus va revenir. Des chrétiens qui attendent le Christ. Et puis, la lampe pourrait avoir plusieurs significations, mais je dirais plutôt, la lampe aussi pourrait être la foi, symboliser la foi, puisque nous sommes sauvés par la foi. Et l'huile qui allume la lampe serait l'Esprit de Dieu, puisque l'Esprit de Dieu est souvent comparé avec l'huile. Voilà, il faut que cette lampe soit allumée, il faut beaucoup d'huile. De même, notre foi doit perdurer et grandir davantage en étant remplie de l'Esprit de Dieu qui nous renouvelle chaque jour. Pourtant, n'est pas parce que nous avons reçu une fois l'Esprit de Dieu que nous devons être rassurés pour toujours. Parce que Paul dit quand même, n'éteignez pas l'Esprit. N'éteignez pas l'Esprit. Il y a un avertissement. Cet Esprit-là que nous avons reçu peut être éteint. Je donne un exemple. Le roi Saül, qui était, lorsque au départ, était choisi par Dieu, bah lui, il était rempli de Dieu. Il est rempli de l'Esprit de Dieu. Mais à la fin, Dieu l'avait abandonné. L'Esprit s'était retiré de lui. L'Esprit l'avait complètement quitté. De même, David, lui, après avoir péché, quand il prie dans psaume 51, il dit « Seigneur, pardonne-moi » et ensuite il dit « Ne me retire pas ton esprit. Ne me retire pas ton esprit. » Il avait ce souci que Dieu retire son esprit. Dans cette histoire avec les 10 vierges, le point intéressant, c'est que les 10 vierges se sont assoupies. Il n'y a pas que les folles ou les sages, il n'y avait pas de différence. Elles étaient toutes fatiguées et elles dormaient toutes. Bien sûr, en connaissant la vérité, nous pouvons aussi être fatigués par des raisons diverses, à cause de la dureté de la vie, des épreuves, peut-être des tentations. Mais sachons que même si nous tombons, la Bible nous dit, 7 fois le juste tombe, mais se relève. Nous pouvons nous relever si nous sommes avec le Seigneur, si nous sommes remplis par l'Esprit de Dieu. Vous savez, David, quand il commet le péché d'adultère avec Bathsheba, est-ce qu'il ne savait pas que c'était que c'était pas bien de se coucher avec une autre femme que la tienne? Il savait très bien. Est-ce qu'il ne savait pas que c'était une femme mariée? Il savait très bien aussi. Et puis, auparavant, il avait aussi expérimenté beaucoup de choses avec le Seigneur. Ce n'était pas quelqu'un qui débute dans la foi, non, pas du tout. Il avait une grande expérience. Il avait été sauvé plusieurs fois par Dieu des bêtes sauvages. Il a pu vaincre le grand géant Goliath. Il a pu s'enfuir et même être sauvé des Philistins. Et même du roi Saül, etc. Il a eu tellement d'expérience avec le Seigneur. Pourtant, même David a été succombé à la tentation. Il a pu être tombé. Mais comme je disais dans Proverbe 24, verset 16, 7 fois le juste tombe, mais il se relève. Que vraiment le Seigneur nous renforce avec sa puissance pour que nous puissions nous relever davantage. Je reviens encore à cette lampe allumée. Comment faire perdurer cette lampe? Bien sûr, tout d'abord, je dis toujours, il faut d'abord surveiller le niveau d'huile. Quand vous montez sur la voiture, quand vous allumez, qu'est-ce que vous voyez en premier sur le tableau de bord? Ben, le niveau d'huile, n'est-ce pas, hein? Et puis, s'il y a un problème, il y a le c'est quoi ça? Le voyant qui s'allume. Et de même, nous aussi, spirituellement, nous devons nous examiner soi-même pour savoir si nous sommes vraiment remplis de Dieu. C'est vrai que nous pouvons travailler pour le Seigneur, nous pouvons faire plein de choses, mais cette huile que nous avons reçue un jour peut être consommée. Voyons un peu l'exemple de l'église des Éphésiens. Jésus, parlant des Éphésiens, l'église d'Éphèse, il disait « Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants. Tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. » Ils ont eu un discernement. Ils ont eu une grande foi pour voir ce qui est mal, ce qui est bien. Ils ont bien travaillé, persévéré, ils ont fait tellement d'œuvres pour le Seigneur que tu as de la persévérance. Ils étaient persévérants, ils ont souffert même à cause de mon nom. Ils ont vraiment été persécutés à cause de Jésus-Christ. Et ils ne se sont même pas lassés pour cela. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. C'est comme si, voilà, tu avais reçu plein d'huile de l'Esprit de Dieu. Tu as bien travaillé, mais où est passé cette envouement, cette zèle que tu avais tout au début. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repends-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Il est vraiment important d'être rempli de Dieu. Donc, je disais que oui, il faut d'abord surveiller le niveau d'huile, s'examiner soi-même. Après avoir s'examiné soi-même, c'est-à-dire qu'il faudrait voir si, depuis quand je n'arrive plus à prier au Seigneur. Depuis quand j'ai du mal à lire la Bible. Et depuis quand, dès qu'il y a quelque chose, j'ai des amertumes ou des déceptions de la part vis-à-vis des gens. Depuis quand j'ai perdu la joie de vivre, la joie de servir Dieu, la joie d'être au service des autres aussi, de mon prochain. Il faut faire un examen de soi-même. Et ensuite, bien sûr, demander à l'Esprit de Dieu, enfin à Dieu, de nous remplir cet esprit. Bien sûr, ce n'est pas en demandant que ça se fait, mais c'est parce que c'est un don de Dieu. On ne mérite pas. C'est une pure grâce. Et nous ne pouvons que demander. Et par la grâce de Dieu, nous recevrons, peut-être. Et dans cet exercice, pour être rempli de l'Esprit de Dieu, la première exercice que nous pourrions faire, c'est de se repentir, bien sûr. C'est comme ça que toutes les personnes ont reçu l'Esprit de Dieu dans leurs étapes de la vie. Et en attendant que Dieu, en tout cas, nous donne, que le Seigneur nous donne la patience aussi, jusqu'à ce qu'on reçoive. Voilà, jusqu'ici, mon message, que nous puissions vraiment être prêts au jour J, parce que le Seigneur revient, et que, comme ces cinq vierges sages, que nous soyons préparés à sa rencontre. Que Dieu nous bénisse. Amen. Je vous invite à la prière. Seigneur, ce qui est rassurant, c'est que les cinq vierges se sont aussi endormies. Et elles n'étaient pas parfaites non plus, comme nous. Nous pouvons aussi tomber dans des moments difficiles. Peut-être on peut même perdre notre espoir. Mais comme tu dis, le juste tombe cette fois, mais il se relève toujours. Il se relève toujours parce que tu es avec nous, parce qu'il y a la repentance, parce que nous avons cette espérance, parce que nous avons la foi de cette résurrection. Seigneur, viens remplir en nous par ton esprit, pour que nous soyons prêts, pour que nous puissions grandir dans la foi. C'est au beau nom de Jésus que nous te prions. Amen.